Trigger warning, cet épisode parle de violences sexuelles et d'agressions sexuelles sur mineurs.
Vous écoutez Quoi de meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti!
Après les mots de Vanessa Springora et Adèle Haenel, après les affaires Barbarin et Polanski, les violences sexuelles à l'encontre des enfants seront sans doute le prochain gros dossier ouvert par la brèche du mouvement de dénonciation MeToo. Pourquoi si tard? La fin du silence dans les familles et les institutions est-elle pour bientôt? Les victimes seront-elles enfin entendues? On va en parler cette semaine avec toi, Anne-Laure, salut.
Salut Clémentine.
Ça va?
Bah écoute, je t'avoue que travailler sur ce sujet-là requiert une sorte de concentration un peu sacerdotale, surtout dans un contexte où la forêt brûle, les tyrans astiquent leurs missiles. C'est un peu chaud comme début d'année, mais on n'est jamais qu'en janvier, il faut garder de l'énergie pour le reste de l'année. Et toi?
Ça va, ça va. Alors que nous dit l'actualité féministe cette semaine? Je crois qu'elle est chargée.
Oui, elle est chargée. Bon, aujourd'hui, au moment où on enregistre, le mouvement de grève a pris un petit coup dans l'aile. On espère que la lutte va continuer puisque le gouvernement a tendance à ne pas faire marche arrière.
Bientôt le grand soir.
Voilà. On a aussi appris récemment que le grand Spike Lee sera le président du prochain festival de Cannes et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ça montre surtout à quel point le cinéma français est à la masse. C'est la première fois qu'une personne noire à cette place-là. Donc, on va voir si ça a une conséquence sur la sélection. Hein. Peut-être que ça n'aura aucune conséquence, mais en tout cas, en termes de représentation, c'est bien. On a un petit changement. Et autre actu qui n'est pas très féministe, mais un peu rock'n'roll quand même, le fait que la reine ait dit OK à Harry et Meghan pour se casser au Canada, on trouve que c'est un peu chouette.
Voilà. Oui, on suit de près l'actu de la monarchie britannique. Bon, et pour en revenir à notre actualité de la semaine, le livre de l'autrice et éditrice Vanessa Springora, donc Le Consentement paru chez Grasset, a mis le feu aux poudres en janvier. D'ailleurs, on en a déjà parlé ici dans ce podcast pour reparler des affaires de pédocriminalité. Donc Vanessa Springora était une adolescente qui a grandi sans son père et dont la mère fréquentait le milieu littéraire.
Je l'ai lu, je devais avoir 15 ans chez lui, après un an de relation suivie avec lui. Et c'est un livre qu'il m'avait interdit de lire, comme plusieurs d'autres livres, parmi lesquels son journal intime, notamment.
Et dans ce livre, elle raconte comment elle a été la proie idéale pour l'écrivain Gabriel Matzneff, qui avait à l'époque 50 ans, qui, au moment de leur rencontre, l'a abreuvée de lettres d'amour jusqu'à ce qu'elle cède, flattée de cette attention. Et elle raconte aussi l'emprise qu'il a eue sur elle en désirant de moins en moins son corps vieillissant. Il faut rappeler qu'elle avait quand même que 14 ans au moment où ils se sont rencontrés, et en la surveillant de plus en plus près. Alors lui-même, ce n'était pas un secret, écrivait sur son goût pour les très jeunes filles qu'il collectionnait, mais aussi pour les très jeunes garçons qu'il payait pour leurs services sexuels en Asie. Donc la mère de Vanessa Springora s'est d'abord opposée à ce rapport, puis a fini par céder. Et l'autrice écrit, je la cite, « Je pense qu'il est extrêmement difficile de se défaire de cette emprise 10, 20 ou 30 ans plus tard. Toute l'ambiguïté de se sentir complice de cet amour qu'on a forcément ressenti, de cette attirance qu'on a soi-même suscitée, nous lie les mains encore plus que les quelques adeptes qui restent à G, donc Gabriel Matzneff, dans le milieu littéraire. »
Alors, c'est vrai que ce livre et toute l'affaire qu'il traîne avec a tendance à ramener cette réalité dans l'actualité. Et c'est le cas aussi de récents scandales, des scandales qui ont touché la grande famille de la culture avec l'affaire Polanski, bien sûr. Donc, pour rappel, rappel, il est accusé par 12 femmes, dont 9 mineures, qui étaient âgées de 9, 10, 12, 13, 15, 16 ans au moment où elles disent qu'elles ont été agressées. Il y a aussi Woody Allen qui est accusé par sa fille Dylan. Et donc, l'affaire Matzneff et toutes les autres sont teintées d'un seul et même truc, c'est un peu la supposée licence des 60s. Oui, à l'époque, il y avait des lits familiaux, il y avait une sexualité, on reconnaissait l'enfant comme un être qui avait sa propre sexualité, son propre rapport au corps. C'est un peu cette licence-là qui a été utilisée par les pédocriminels, qui se sont servis de ça pour agir et aussi pour le faire sans se cacher devant les yeux de tout le monde en publiant des livres qui étaient achetés. Bref.
Oui, on en reparlera dans la suite de l'épisode.
Oui, donc cette histoire, et comme toutes les autres, montre un peu l'ambivalence de cette époque-là. On rappelle aussi qu'en 77, trois hommes avaient été condamnés à 3 ans de prison pour des agressions sexuelles sur mineurs. Et une flopée d'intellectuels s'était indignée de cette condamnation et avait signé une pétition dans Le Monde pour condamner cette rigidité morale de la société. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Parmi les signataires, il y avait Louis Aragon, Francis Ponge, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, André Glucksmann, Bernard Kouchner, Jack Lang, évidemment Gabriel Mazneff, évidemment Catherine Millet, Jean-Paul Sartre, enfin bref, des signatures qui étaient relativement importantes et qui montraient à quel point il y avait une validation intellectuelle de ces agissements-là. Il y a eu de nombreux signataires de cette tribune sont ensuite revenus dessus en s'excusant quand, évidemment, la justice a montré la gravité des faits. Il ne s'agissait pas d'actes anodins, c'était des actes criminels assez graves, même très graves. En tout cas, cette levée de bouclier d'intellectuels démontre qu'il y avait une certaine autorisation médiatique. On se souvient par exemple du clip de Gainsbourg, Lemon Incest, qui est passé sans encombre, mais qui pouvait être relativement problématique, et plus récemment aussi. Ça a permis à certains artistes plus récents, comme Michael Jackson ou Christophe Ruggia, de se sentir tout à fait à l'aise avec des jeunes enfants, en tout cas avec leur désir pour des jeunes personnes.
Oui, donc Christophe Ruggia, pour resituer le cinéaste qui est accusé d'attouchement et d'agression sexuelle sur Adèle Haenel quand elle était adolescente. Mmh. Effectivement, et dans le monde de la culture, il y a toujours une grosse actualité. Je pense qu'on peut citer aussi l'apparition récente du livre de Eve Ensler, qui amplifie, à mon avis, tous ces questionnements. Donc, l'autrice américaine des Monologues du Vagin publie ce mois-ci Pardon aux éditions de Noël. C'est un livre dans lequel elle imagine une lettre qui lui serait adressée par son père, qui est aujourd'hui décédé et qui s'est rendu coupable d'inceste sur sa personne. Évidemment, celui-ci ne s'est jamais excusé, ni n'a reconnu les faits. Et donc, elle raconte dans ce livre la vie de cet homme qui a été élevé à la dure, privé de sentiments dans son enfance, et qui se serait senti revivre à la naissance de sa fille, et qui aurait, je mets des guillemets, confondu amour fou avec attirance dès qu'elle a eu l'âge de 5 ans. Et ensuite, en voyant la réaction de sa fille, il se serait acharné sur elle à l'adolescence pour lui pourrir la vie. Et Eve Ensler elle-même a sombré dans l'alcool et dans la déchéance ensuite pendant plusieurs années quand elle est devenue jeune femme. Et donc, je la cite, elle écrit donc à la place de son père « Reconnaître le caractère criminel de mes actes, prendre conscience de mes agissements et à quel point ils t'ont marqué et démoli. Te regarder comme un être humain. Tenter de me mettre à ta place. »
Yet in all this time, it occurred to me. Yes, a couple of men have lost some jobs. Few have gone to prison, very few. Few have been humiliated. But I have never, ever heard a man make a public apology for sexual abuse or domestic abuse. As a matter of fact, in 16,000 years of patriarchy, I haven't read an apology of a man ever who's come out and said, this is what I've done. And I'm not talking about, I'm sorry I hurt you. Mm-hmm. I'm talking about a deep, sacred, committed, thorough, self-interrogated apology. So it occurred to me that I have been yearning for an apology my whole life.
Tout ça, évidemment, c'est ce que Eve Ensler aurait aimé que son père fasse de son vivant et qu'il n'a pas fait. Et d'ailleurs, dans une interview, elle dit qu'elle n'a jamais ni lu, ni vu, ni entendu de véritables excuses formulées de la part d'un agresseur et que c'est pour ça, en fait, qu'elle a écrit ce livre.
Oui, c'est vrai, aucune excuse, voire parfois pire encore. En dehors de ces témoignages importants et de ces faits culturels, il y a aussi l'actualité criminelle qui montre ce que c'est qu'être dans la tête d'un pédocriminel avec l'arrestation du médecin breton Joël Le Skouarnec, j'espère que je prononce bien, qui aurait agressé au moins 300 enfants à l'hôpital, donc il était chirurgien, ou dans leur sommeil, et qui consignait méticuleusement ses méfaits dans des carnets. C'était vraiment l'horreur intégrale. France Info, d'ailleurs, s'est plongée dans les carnets de cet homme, dans lequel il raconte toutes les fois où il a agressé, ce qu'il ressentait, le plaisir qu'il ressentait de cette perversion. Il était pervers et fier de l'être, pervers et pédophile. À chaque entrée de son carnet, il indiquait qu'il était pédophile. C'était l'entrée de chaque date. Et il raconte aussi, et ça c'est passionnant, toutes les fois où il a été surpris par sa femme, par des personnels de l'hôpital, et toutes les fois où du coup, chaque fois où il a été surpris, il n'y a eu aucune conséquence, c'était une sorte de validation de ses agressions, et ça pouvait aussi renforcer son sentiment de surpuissance qui est assez commun à tous les pédocriminels, et le fait de se sentir en dehors des lois, en dehors de tout.
Oui, et en ayant très peu d'empathie pour ses victimes. Donc, Je pense qu'on peut pointer du doigt le paradoxe dans les affaires de pédocriminalité, puisqu'aujourd'hui, les enfants sont quand même considérés comme étant peut-être la chose la plus importante au monde. Et d'ailleurs, le tabou de l'inceste reste universel et fondateur pour beaucoup de sociétés. Mais néanmoins, les enfants sont aussi celles et ceux qu'on écoute le moins. D'ailleurs, en témoignent les retentissements de l'affaire Outreau en France, qui aurait pu être une leçon, mais qui a encore davantage discrédité la parole des enfants dans les tribunaux. Je pense qu'il est important de rappeler l'importance et le choix de mots très précis. Évidemment, il y a un problème dans la couverture médiatique de ces affaires lorsque l'on parle de relations ou lorsque l'on parle débat. Et d'ailleurs, comme l'ont démontré des récents débats sur Twitter en lien avec l'affaire Christophe Ruggia, le terme attouchement sexuel, donc qui minore les faits en suggérant qu'il s'agit d'un contact bref et sans danger, n'est pas en fait un mot qui existe dans le code pénal. Les seuls mots qui existent sont agression sexuelle et atteinte sexuelle.
Et viol, bien sûr.
Oui, et viol, évidemment. Et quant au mot pédophile, nous allons nous-mêmes essayer d'éviter de l'utiliser, puisqu'il est assez galvaudé. On rappelle qu'en grec, la philia, c'est l'amour d'eux. Donc la pédophilie, c'est l'amour des enfants. Et ça invisibilise en fait totalement le caractère criminel des actes. Et d'ailleurs, dans la loi, c'est un terme qui n'existe pas. En fait, c'est une notion qui a été inventée par des psychiatres et utilisée assez tardivement au XXe siècle. D'autres personnes qui se placent du point de vue des victimes peuvent parler également de pédoclastie, donc brisure de l'enfance. Mais voilà, la pédophilie, ce serait plutôt un terme lié à un diagnostic dans le DSM-5, donc le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, où il apparaît dans la catégorie des paraphilies. Mais je pense qu'il y a d'autres exemples ces temps-ci qui sont assez éclairants. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, bien sûr. Tout à l'heure, avec l'exemple du chirurgien breton, on ne va pas répéter son nom parce qu'il ne mérite pas d'avoir un statut particulier, mais ça montrait un peu l'impunité du statut social. Il est chirurgien, donc il peut faire ce qu'il veut. La plus grande impunité, c'est celle de l'Église catholique. Et c'est vrai que c'est incroyable de voir qu'à chaque affaire, on semble découvrir quelque chose qui est énorme. Enfin, le nombre de victimes est extraordinaire. Et surtout, le fonctionnement de l'impunité à l'intérieur de l'Église catholique est absolument glaçant. C'était une des plus grandes révélations sur la pédocriminalité des prêtres. C'était en 2001. Les journalistes du Boston Globe avaient donc révélé l'intensité d'un réseau. Et le nombre de victimes était assez énorme. Il y avait eu d'ailleurs un film qui avait été produit sur cette affaire, ça s'appelait Spotlight, c'était super bien.
Je sais qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas me dire. Mais cette histoire, tout le monde en entendra parler.
Croyez-vous que votre journal ait les ressources nécessaires ?
Je crois que oui. Et vous ?
En France, la levée du silence est arrivée avec l'affaire du cardinal Barbarin, qui est encore en ce moment dans l'actualité, avec le procès du père Prénat, donc, qui lui aussi a pu agresser des enfants tous les week-ends pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui, il y a 35 victimes au moins qui ont été listées, mais ça semble être un chiffre encore sous-estimé. Il y a sans doute encore des victimes qui peut-être ne se souviennent pas, peut-être ne sont pas sorties. Voilà. Les faits reprochés remontent à l'époque où le prêtre encadrait un groupe de scouts à Saint-Luc et Sainte-Foy-les-Lyons, dans la banlieue ouest de Lyon. Il a reconnu ses faits. Une victime, d'ailleurs, à l'origine de la plainte, raconte ce qui s'est passé.
Je me rends compte de l'ampleur de mon propre préjudice et du préjudice de ma famille, qui est effectivement colossal. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de chance. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir pu un peu dépasser ça.
Oui, alors avec toutes ces affaires, on se demande un peu pourquoi est-ce que ce tabou persiste, et notamment pour les violences sexuelles les plus courantes qui se passent dans les familles. Je pense que l'un des problèmes qui obscurcit cette réalité-là, c'est qu'on parle souvent à tort de prédateurs sexuels ou de monstres, par exemple en réduisant les criminels à la personne de Marc Dutroux, donc qui avait commis des actes avec assassinat. On pense aussi à Joseph Fritzl, donc cet homme qui avait retenu sa fille dans un sous-sol et l'avait violé pendant des années. En fait, il faut aussi prendre en compte les gens qui sont autour de nous, donc des types considérés comme des types bien, des gars sympas et insoupçonnables. Et on espère en tout cas qu'avec cette année 2020 aura lieu un changement de paradigme qui nous permettra de comprendre que ce n'est pas une exception, mais que c'est en fait très banal et répandu, et qu'une minorité aussi des agresseurs peuvent être des femmes. D'ailleurs, dans l'affaire du réseau pédophile d'Angers, qui est en instruction, 42 personnes sont mises en examen, dont 20 femmes, pour viol sur mineur de 15 ans et proxénétisme aggravé. Donc, comme pour les affaires de viol, celles-ci ne sont souvent pas le fait d'inconnus agissant dans une ruelle sombre, mais de proches, d'où la difficulté à la fois à caractériser les faits, mais aussi à les dénoncer.
Dans sa newsletter de Slate, Titu Lecoq a d'ailleurs dit, je cite, « Les violences sexuelles ne sont pas des anomalies dans notre société ou des exceptions. Elles sont inscrites profondément dans notre histoire. Elles en sont une émanation logique. Les rapports de pouvoir et de domination qui hiérarchisent notre vivre ensemble sont indissociables de ces violences. Notre rapport au corps, à l'altérité, à la force, à l'autorité conduit à la reproduction de ces violences. Ce qui implique que pour lutter contre ces violences, il faut changer la société. »
Mais alors pourquoi est-ce que justement on a autant de difficultés à aborder ces questions-là, à les reconnaître comme étant peut-être aussi banales ?
Déjà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On rappelle que 45% des auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans sont eux-mêmes mineurs. Donc, ça rend la chose difficile du point de vue légal. On ne croit pas les enfants. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est l'affaire d'Outreau. La parole des enfants est soit pas écoutée, soit minorée, soit totalement remise en question.
Oui, donc la vérité ne sort pas forcément de la bouche des enfants.
Exactement. Et aussi, c'est une tâche qu'il est difficile de circonscrire, difficile à quantifier, à mesurer ces crimes-là. Les chiffres sont largement sous-estimés. Il y a peu d'enquêtes, même si selon le ministère de la Justice, 4 affaires de violences sexuelles sur 10 sont des agressions sexuelles sur mineurs, ce qui est quand même énorme. Bref, pour donner une idée, 19 700 mineurs victimes de violences sexuelles en France en 2016. Parmi ces victimes, 78% de filles.
Oui. Là, c'est une question qui nous intéresse, évidemment. Et alors, nonobstant de la ritournelle un peu traditionnelle, voire un peu réac, qu'on entend souvent de « il faut protéger les enfants », en réalité, il y a assez peu de sensibilisation qui est faite auprès des jeunes. D'ailleurs, France Culture s'est rendue au centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, donc le CRIAV, et a constaté que à la fois les profs et les enseignants n'osaient pas du tout parler de ces sujets-là auprès de leurs élèves, de peur de passer pour des pervers. Donc il y a un psychiatre interviewé par France Culture, c'est Walter Albardier, qui explique que parler de prédateurs sexuels, donc comme on l'a déjà vu, empêche de se considérer soi-même et d'examiner ses propres attitudes pour voir si elles peuvent peut-être être intrusives, puisque l'agresseur sexuel, ce serait une sorte de type baveux avec une sexualité débordante qui se cache derrière les arbres et saute sur les gens. Ça ne peut donc pas être moi. Voilà, donc toutes ces représentations inexactes nous empêchent effectivement de comprendre quelle est cette réalité. À ça s'ajoute aussi la manière dont la loi va se saisir de ces questions-là. Donc voilà, il semblerait qu'il y ait un problème de législation.
De la même façon que le viol est entré dans le code pénal de façon hyper tardive, la loi a mis énormément de temps pour s'occuper de la pédocriminalité. Elle a pris un peu ces crimes-là par-dessus la jambe, en disant que c'est pas très grave, que c'est un peu de l'ordre de l'initiation sexuelle. Historiquement, on se focalise d'abord sur la violence, puis sur la morale. On dit que les enfants sont petits, ils vont oublier, ou alors ils ne se souviennent pas bien. On dit que les enfants sont résilients, on peut dire que c'est vrai, mais ils sont résilients dans leur survie et pas forcément dans leur façon d'aller au-delà du souvenir ou de passer outre les crimes qu'ils ont subis. On considère aussi que ce qui a lieu dans le cadre familial doit rester privé, d'où ce que tu racontais tout à l'heure, le fait que les instits, que les professionnels de la petite enfance ne se saisissent pas de ces questions-là. On ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les maisons, des coups portés sur les enfants ou de ce qu'ils peuvent avoir subi. Bref, on s'est intéressé tardivement au point de vue des victimes.
Oui, comme d'habitude. Donc effectivement, il faut rappeler que les faits sont punis par la loi depuis que le code pénal existe, tu l'as dit, donc depuis 1791. Mais d'abord, on parlait de ce qu'on appelle attentat à la pudeur. Ensuite, en 1832, le législateur va créer ce qu'on appelle l'attentat à la pudeur sans violence sur les mineurs de moins de 11 ans. Donc sans violence, on peut quand même se poser la question. Mais c'est à ce moment-là que va être inventé le crime de pédophilie. Et l'idée du texte à ce moment-là est assez limpide. Le consentement d'un mineur ne vaut pas. Donc voilà, la question ne se pose pas.
Une question très importante, c'est la prescription des faits. Et ça, pour le coup, c'est gravissime. Et la loi a un petit peu changé, mais pas sur le fond. Donc la justice a pris en compte la difficulté de la prescription des faits que de façon très récente. C'est depuis 2018 seulement qu'une victime mineure peut porter plainte jusqu'à 30 ans après les faits. Donc, sachant le fonctionnement de la mémoire traumatique, qui pendant très longtemps n'a pas été pris en compte par la justice, c'est une réforme relativement bénéfique, mais qui reste encore limitée, puisque 30 ans, ça reste limité. Et en vrai, la prescription pourrait être totalement remise en question pour les agressions sexuelles pour les mineurs, à mon sens.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que les associations demandent, en fait. Sachant que, justement, ce principe de prescription des faits existe parce qu'il devrait y avoir un droit à l'oubli, et les associations demandent à ce que ce droit à l'oubli n'ait pas lieu dans le cas des crimes sexuels, et notamment des crimes sexuels sur les enfants. Alors, évidemment, tout ça, ça pose la question de l'âge du consentement pour les enfants et les adolescents. Donc, l'âge du consentement, en fait, c'est une limite qui est arbitraire et qui est fixée par la loi à un moment dans la société. Donc, c'est aujourd'hui 15 ans. Et donc, le fait pour une personne majeure d'avoir un rapport sexuel consenti avec un ou une mineure de moins de 15 ans, ça s'appelle aujourd'hui atteinte sexuelle présumée. Et ce qui va poser problème face à la loi, en tout cas, c'est la contrainte morale ou la surprise, donc qui sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Et donc aujourd'hui, les associations regrettent en fait qu'il n'y ait pas l'instauration d'un âge en dessous duquel les enfants seraient automatiquement considérés comme ne pouvant pas consentir à des rapports sexuels avec des majeurs, donc mettre une limite. D'ailleurs, on se souvient de ce fait divers atroce, c'était le viol d'une enfant de 11 ans où l'homme avait finalement été en prison après moult retournements, et ça avait été considéré justement comme une atteinte sexuelle, car le consentement de l'enfant avait été pris en compte par la cour.
Oui, alors que je me souviens de cette histoire, l'enfant était dans un état de sidération face à ce qui arrivait.
Oui, quel que soit d'ailleurs le physique de cet enfant en question, puisque en général on a tendance à dire « oui, mais elle faisait plus que son âge », etc.
Quelle horreur.
Voilà, et tout ça nous rappelle la fameuse chanson de ABBA qui parle exactement de ce genre de situation, qui s'appelle « Does Your Mother Know ?»
Et alors donc, on a dit tout à l'heure que la pédocriminalité était arrivée relativement tard dans l'appareil juridique de notre pays. On peut se demander comment il est articulé par rapport à l'histoire du corps et de la sexualité.
Oui, et aussi de la criminalisation de la sexualité. Donc il faut rappeler qu'il y a 100 ans, la pédocriminalité était déjà vue comme une perversion, mais parmi tant d'autres, qu'ensuite, au cours du XXe siècle, elle a été acceptée, voire carrément revendiquée, puis elle est redevenue taboue, puisqu'aujourd'hui elle est quand même moralement réprouvée, même si elle n'est pas toujours sanctionnée par la justice. Et d'ailleurs, une chercheuse, Anne-Claude Ambroise-Rendu, qui a écrit « L'histoire de la pédophilie » en 2014, rappelle très justement que l'utilisation du corps des enfants depuis des millénaires rentrait dans une sorte d'ordre admis. Et je pense qu'il faut aussi rappeler que l'invention même de la notion d'enfance date déjà du 19e siècle.
Et d'ailleurs, ça montre à quel point, tout à l'heure on parlait des années 70, et il disait que justement, si l'enfant était considéré comme un adulte, alors on pouvait parler de sa sexualité et en profiter. C'est archi faux, puisque justement, quand on parle de pédophilie, on se réfère souvent à la pédérastie de l'Antiquité en Grèce, où les enfants n'étaient pas considérés comme des personnes. C'était donc dans l'éducation des jeunes hommes, comme c'est raconté par les grands philosophes, par Platon par exemple, mais aussi par Sappho. Il y avait une part de ce qui était considéré comme une initiation sexuelle, mais il faut vraiment transposer ça dans un contexte de l'époque. C'était un ordre social, un écrasement de l'enfance par l'adulte. Mais c'est là où on trouve justement la racine de l'analogie pédophilie-homosexualité qui nourrit quand même énormément l'homophobie aujourd'hui. C'est une des références préférées des homophobes. D'ailleurs, hier, au moment où on enregistre, il y a eu la manifestation de la Manif pour tous où on a pu entendre à nouveau cette analogie-là. D'ailleurs, dans son dernier roman « Love Me Tender », Constance Debray raconte que son ex-mari a utilisé ce prétexte-là, la confusion entre l'homosexualité et la pédophilie, pour la priver de la garde de son fils, en condamnant entre autres ses lectures, par exemple Hervé Guibert, Tony Duvert qui était un auteur pédophile, et en condamnant aussi sa sexualité. Donc c'est vraiment une articulation qui est très récurrente, pédophilie, homosexualité, et elle vient de cette confusion-là, et de ce lien entre l'Antiquité et aujourd'hui.
Oui, tu l'as dit, un autre point de référence auquel on se heurte souvent quand on parle de pédocriminalité. Donc c'est l'éternel retour de la libération sexuelle des 60s, mais aussi ses limites, puisqu'effectivement mai 68 a eu quand même le grand avantage de permettre une plus grande émancipation de la jeunesse, ce qui est très bien et sur lequel on ne reviendra pas. Mais paradoxalement, tu l'as dit, notamment avec la vie en communauté, certains pédocriminels se sont servis de ces principes pour être, avec des guillemets, okayisés par la société. Donc à la fois Polanski, Gainsbourg, Matzneff, etc.
Oui, il y a aussi la psychanalyse qui a récupéré le truc. Au début du XXe siècle, par exemple, Freud disait que le fait d'abuser des enfants se rencontre avec une fréquence inquiétante. C'est aussi lui qui est à l'origine du fameux complexe d'Oedipe, le fait que les petits garçons aient envie de tuer leur père pour coucher avec leur mère. Françoise Dolto aussi en a parlé. Elle explique qu'on a une sexualité dans l'enfance, mais la grande différence, c'est que cette sexualité doit rester dans l'enfance et ne peut pas être interprétée par des adultes ou utilisée par des adultes, bien sûr.
Oui, et alors pour revenir à la période dont parle Vanessa Springora, celle des années 80, donc la chercheuse Anne-Claude Ambroise Rendu, interrogée par France Culture, explique justement que l'impunité de cette époque, qui est quand même très proche de la nôtre, s'expliquait pour deux raisons principales. D'abord parce qu'il existait, je cite, une espèce d'aveuglement et de surdité générale à l'égard des crimes sexuels commis sur les enfants jusqu'au milieu des années 80, notamment parce que l'idée qui dominait pour une partie des observateurs contemporains était donc que ces faits n'étaient pas très graves. D'ailleurs, les viols sur mineurs étaient assez peu sanctionnés par la loi et souvent requalifiés en attentats à la pudeur avec ou sans violence, pour une raison très spécifique qui était que les médecins experts qui se prononçaient donc sur la réalité physique du viol disait que la disproportion des organes génitaux entre les adultes agresseurs et les mineurs victimes était telle qu'il ne pouvait pas y avoir de viol, car il ne pouvait pas y avoir de pénétration. C'est quand même hallucinant comme justification.
Justement, le gouvernement a annoncé en novembre dernier, dans le cadre du Grenelle sur les violences conjugales, un plan de lutte, 22 mesures qui s'appliquent aussi aux violences sexuelles sur les enfants, violences sexuelles et physiques et morales sur les enfants. Ça fait partie d'un plan triennal pour en finir avec ces violences-là. C'est censé se terminer en 2022. Le but, c'est de renforcer les dispositifs de prévention auprès des adultes qui travaillent avec les enfants. Donc, ouf. Et de renforcer les numéros mis à disposition, par exemple le 119. Bon, ça peut être... On peut en discuter puisque les moyens qui sont mis à disposition ne sont pas phénoménaux non plus. Mais bon, l'intention est là. Reste à voir si ces mesures sont donc efficaces. On peut saluer cette démarche-là. Après, on espère vraiment que les moyens mis à disposition vont pouvoir faire la différence. Vraiment, quoi.
Oui, parce qu'ils font souvent défaut, donc on garde l'œil ouvert. Et alors aujourd'hui, contrairement au siècle précédent, on va de plus en plus s'intéresser aux conséquences aussi de cette maltraitance infantile, mais aussi écouter enfin la parole des victimes. Donc on sait que ces pratiques peuvent provoquer des troubles de la sexualité et des conduites sexuelles, des troubles des conduites alimentaires, des conduites à risque, des troubles de la personnalité, une difficulté à faire confiance, des sentiments de honte et de culpabilité, une mauvaise estime de soi, etc., etc. La liste est très longue. Alors, pour parler un peu de notre expérience personnelle, ou en tout cas peut-être de nos observations personnelles, est-ce que toi, c'est un sujet que tu découvres ou pas ?
Non, je ne le découvre pas, mais je pense comme la majorité d'entre nous, on connaît des personnes qui ont été agressées quand elles étaient enfants. Je ne connais pas d'enfants qui ont été agressés, mais je connais des personnes qui ont survécu, souvent agressées par leur grand-père, leurs oncles, leurs grands frères, le fils de leur nounou, des personnes qui ont gardé le silence pendant très longtemps ou qui ont oublié ou garder ça dans une partie de leur tête. Et ce qui est vraiment particulièrement terrible, je trouve, c'est comment ces personnes se sont battues face à la justice pour faire reconnaître ce qui s'est passé. Et surtout, les relations avec leur famille. C'est-à-dire que je pense à une personne que je connais, dont l'oncle a abusé pendant des années et des années. Toute sa famille s'est retournée contre elle, bien évidemment, considérant que parce qu'elle a été adolescente, elle avait forcément son mot à dire et qu'elle a laissé faire. Et elle a obtenu justice, et ça c'est vraiment très fort, mais il a fallu 4 ou 5 ans de procédure, c'est vraiment très très long.
Oui, surtout on se demande un peu à quoi bon, en fait, des années plus tard, est-ce que ça va servir, quel est le prix à payer, etc.
Et toi ?
Bah oui, en fait, moi aussi, je me suis rendu compte récemment en faisant un petit sondage autour de moi que j'étais entourée de gens qui avaient été violés ou agressés par des amis de la famille, dont le cousin s'était glissé dans leur lit quand elles étaient petites, etc. Et en fait, je trouve qu'il y a une vraie dissonance cognitive parce que à la fois, c'est hyper fréquent, mais à tel point que ça deviendrait presque banal, donc pas très grave, à tel point qu'en fait on n'en parle pas, enfin presque comme un truc du quotidien, quoi. Et en fait, souvent quand les gens en parlent, c'est un peu pris par-dessus la jambe. Soit les parents, soit la famille disent « Ah oui, jouer au docteur, voilà, il faut pas dramatiser, sinon ça peut effectivement foutre la merde dans la famille, etc. » Donc il y a un vrai coup social aussi à prendre ces questions-là au sérieux et à bras-le-corps. Mmh. Moi, personnellement, je me souviens qu'au collège, un exhibitionniste, donc un pédocriminel, attendait une amie à moi tous les matins dans sa rue, devant chez elle. Et je pense qu'en fait, ça ne nous est jamais venu à l'esprit ni de prévenir ses parents, ni de prévenir la police. Enfin, on se disait vraiment qu'il n'y avait rien à faire, en fait. Et, ouais. Et c'était limite devenu un running gag, en fait, entre nous. Enfin, nous aussi, on ne comprenait pas, en fait, que c'était vraiment dangereux, quoi, et grave. Et d'ailleurs, même mon père, en fait, quand il me parle de ses années en pension pour garçon, il rigole à moitié des prêtres qui faisaient des trucs bizarres, quoi. Donc, c'est un peu le malaise. Mais moi-même, j'ai grandi avec les affaires de prêtres pédophiles et du coup, je me tenais toujours très éloignée du prêtre de ma paroisse quand j'étais scout. Mmh. Voilà, vade rétro. Donc, je pense que ça rend un peu parano aussi quand on est parent. Enfin, peut-être, peut-être à raison.
Mais complètement, et tu parlais du rire comme arme, comme défense. C'est vrai que je me souviens que moi aussi, il y avait un exhib devant le lycée et j'avais une seule camarade qui était paniquée. Et nous toutes, on avait tendance à dire « ça va pas te tuer de voir son zizi ». Et en fait, c'était gravissime. Mais c'est fou, hein, comment on se protège quand on est un enfant. Alors, justement, on en parlait tout à l'heure. Dans la pédocriminalité, il y a un crime qui est particulièrement atroce et qui correspond à la majorité des agressions sur les enfants. C'est l'inceste ou en tout cas les agressions sexuelles à l'intérieur des familles. Donc, on a posé quelques questions à Isabelle Aubry de l'association Ivy, qui s'occupe donc des victimes d'inceste.
4 millions de victimes d'inceste en France. Et pourtant, ce crime n'est pas une grande cause nationale, tout simplement parce que nos autorités ne le considèrent pas comme tel. Ils n'ont pas pris la mesure du fléau de santé publique que ça représente. Et au niveau de la société, l'inceste remet trop de choses en cause. Dans les médias, il n'y a pas non plus de prise de conscience et c'est malheureux. L'inceste est toujours traité comme un fait divers dans les rubriques à part entre les chiens écrasés et les vols de voitures. Ce n'est pas quelque chose considéré comme étant grave. Malheureusement, l'inceste est banalisé. C'est pourquoi ce n'est pas une grande cause nationale aujourd'hui. L'inceste, c'est le monde du silence. D'abord, le silence imposé par l'agresseur à la victime, soit par le chantage, soit par la menace, la difficulté de révéler. Et quand l'enfant révèle, nous savons que dans 84% des cas, sa famille va lui demander de se taire et il va devoir continuer à fréquenter l'agresseur jusqu'à sa majorité. C'est un monde, en fait, où la victime va être exclue. Et il faut bien comprendre que la première difficulté dans l'inceste, outre le passage à l'acte physique, c'est la perte du lien. C'est la perte de sa famille. C'est la perte du terreau pour se construire. Aucun enfant n'a envie de cela. D'où le conflit de loyauté qui peut en résulter. Parfois, des enfants préfèrent se taire pour garder leur famille que de révéler ce qu'ils ont vécu. Comme si elles avaient un choix cornélien entre rester dans une tour en flammes et se jeter par la fenêtre. Voilà. Donc, elles mettent en général, de ce fait, près de 16 ans à révéler l'inceste après les faits, selon le sondage Ipsos pour l'AIVI fait en 2009. Pourquoi avons-nous créé l'AIVI ? Eh bien, nous avons créé l'AIVI parce que nous souhaitions abolir la prescription, qui est pour nous un passeport pour le viol d'enfants. Abolir la prescription, c'est important pour prévenir la pédocriminalité et on le voit aujourd'hui avec toutes les affaires qui sortent. Les enfants qui n'ont pas pu parler hier, eh bien, n'ont pas pu non plus protéger les enfants qui sont victimes aujourd'hui. Nous voulions aussi insérer l'inceste dans le code pénal pour que ce soit reconnu comme un crime spécifique et que l'on arrête de demander à l'enfant s'il était consentant à un inceste avec un membre de sa famille. Pour cela, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause.
Donc, en plus de Ivy, il existe de nombreuses associations qui permettent aux personnes de parler ou de trouver de l'aide. Par exemple, l'association Innocence en danger, Coup de pouce, Agir contre la prostitution des enfants et le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. Par ailleurs, et ça c'est très important, on en a parlé tout à l'heure, la Fédération française des centres ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles, donc le CRIAV, a mis en place un numéro de téléphone national d'évaluation et d'orientation qui s'adresse aux personnes attirées par les enfants pour leur permettre d'éviter tout passage à l'acte. Donc il s'agit du 0806 23 10 63 et je pense que c'est important aussi de le mentionner ici.
Le moment
pop culture,
pop culture.
Alors, pour parler de la pop culture, effectivement, je pense qu'on peut séparer d'un côté celles et ceux qui ont écrit sur ce qu'ils et elles ont subi, donc par exemple Christine Angot ou Andréa Bescon, et celles et ceux qui ont fait des œuvres à propos de la prédation, par exemple Nabokov, mais aussi François Ozon.
Bah déjà, on peut commencer par quelque chose qui est très important, c'est les contes pour enfants. Mmh. On en parlait justement du fait que parfois les enfants ne sont pas informés sur la réalité des crimes sexuels. Il se trouve que les contes ont pris ça en charge depuis très longtemps. On pense à Bettelheim et à sa psychanalyse des contes de fées qui nous a donné pas mal d'indices. Donc il y a déjà Le Petit Chaperon Rouge, bien sûr, qui raconte l'histoire d'une enfant qui est agressée par un loup. Il y a aussi La Belle au bois dormant, pareil, une agression. Tout ça sous couvert de métaphores, bien sûr, mais l'enfant peut comprendre déjà beaucoup de choses à travers ces histoires-là.
Oui, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de revenir sur une figure assez récurrente, c'est celle de la nymphette, donc je mets des guillemets, et celle du personnage de Lolita, donc de Vladimir Nabokov. La question qui s'est beaucoup posée était de savoir si le roman était un réquisitoire ou bien un récit complaisant. Vanessa Springora elle-même en parle dans son livre, elle dit que ce n'est absolument pas une apologie et que le personnage masculin, donc Humbert, n'est pas du tout présenté comme sympathique ou comme un bienfaiteur, mais bien comme un prédateur qui va profiter de l'hospitalité de la mère et de la fille, même si Lolita minaude et flattée par toute cette attention, voilà, ce n'est pas sa faute. Donc je la cite, le récit qu'il fait de sa passion pour les nymphettes, passion irrépressible et maladive qui le torture tout au long de son existence, est au contraire d'une lucidité implacable.
You're a monster. You're a despicable criminal monster.
Et alors cette année, on a de la chance puisque Lolita a enfin une voix à travers le livre Journal de Elle de Christophe Tison qui retourne un peu le point de vue.
Et ce qui est flippant avec Nabokov, c'est que d'accord, on sait que son intention n'était pas de faire le récit d'une nymphette entre guillemets, mais c'est ainsi qu'il a été reçu et ça c'est absolument flippant. J'en parlais tout à l'heure, quand je l'ai lu, moi, j'ai lu l'histoire d'une jeune fille sexualisée alors que j'étais moi-même, j'avais 14 ans et je l'ai lu parce que je l'ai lu dans la société dans laquelle on est. Donc c'est absolument glaçant de se dire que c'est comme ça qu'un livre peut exister aussi à travers la réception des personnes.
Mmh. Oui, c'est important de donner un appareillage critique à cette réception et de rappeler quelle était l'intentionnalité de l'auteur. Ouais.
On peut aussi parler du superbe film d'Andréa Bescon, Les Chatouilles.
Je me demandais si tu ne voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Hein.
Qui est basé sur son ballet. Elle est survivante d'agressions sexuelles et elle raconte justement les agressions subies pendant plusieurs années par la main d'un ami proche de la famille et l'enfermement dans lequel elle s'est retrouvée en tant que petite fille, de ne pas vouloir briser l'amitié entre ses parents et son agresseur. Le film est étourdissant de beauté, vraiment, malgré la dureté du propos et surtout la dureté des images. Enfin, chaque moment où cette petite fille est amenée dans la salle de bain pour jouer à la poupée te glace jusqu'à la moelle. Ce qui est fort, c'est que dans ce film, elle insiste sur le supplice détectable de l'enfant, le fait que son silence est si visible qu'elle s'enferme dans un rapport au corps difficile aussi qui la touche en tant qu'adulte. C'est un film dont le centre est la survivance des adultes et les combats menés pour se dépêtrer de cette histoire violente et les rapports cassés entre les membres de la famille. Dans le film, justement, Karine Viard, qui joue la mère, est absolument glaçante. On a posé quelques questions à Andréa Bescon, justement, sur son écriture cathartique, et elle nous a dit « En écrivant la pièce de théâtre, je dois admettre que tout est sorti de manière instinctive et désordonnée, comme un hommage à la mémoire traumatique. S'en est suivi tout logiquement les mécanismes de la pédocriminalité, le silence, le secret, la sidération, l'emprise de l'agresseur, le déni ou la minimisation de l'entourage, les addictions, l'énergie morbide, et enfin la libération par la parole et le corps. » L'artiste nous a aussi dit à quel point elle s'était sentie touchée par les différentes révélations d'Adèle Haenel ou de Vanessa Springora. Elle y trouve justement une sororité dans ce lieu-là et elle y voit justement le signe d'un grand espoir. Donc c'est très très fort son témoignage.
Il y a un autre film qu'on peut voir aussi, cette fois-ci pour parler de l'Église catholique, c'est Grâce à Dieu de François Ozon.
Je vais être clair avec vous, le père Reynard restera toujours prêtre.
Qui suit, donc avant le procès qui a lieu en ce moment, l'affaire du père Prénat à Lyon, mais du côté des victimes qui vont témoigner de ces agissements, se rencontrer et s'organiser. Voilà, je vous le recommande.
Moi, je vous recommande L'Empreinte, qui est un livre extraordinaire sorti aux éditions Sonatine, qui est l'œuvre d'Alex Lesnevich. Cette personne a écrit ce livre pour la petite fille qui, elle, était, il se définit comme non-binaire, et qui a subi des viols répétés de la part de son grand-père, et surtout, qui a subi le silence de sa famille sur ces agressions-là. Elle travaillait à la défense d'un tueur pédocriminel et condamné à mort. Et en faisant cette défense-là, Yael revient sur son histoire, sur sa vie en morceaux. Yael comprend le lien, en fait, entre l'agresseur et l'enfant qu'elle était. Ils ont subi la même chose, des trous, des silences comblés par de la souffrance. Yael condamne aussi la fabrication des pédocriminels, puisque le système de santé ne les traite pas correctement. Là, c'est aux États-Unis, mais je pense qu'en France, ça peut être similaire. Le tueur en question avait tenté à maintes reprises d'être pris en charge pour sa pédocriminalité et pour sa violence en général. Mais étant dans la misère sociale, l'Amérique lui a fermé la porte.
Oui, il y a un film dont on peut parler aussi, qui date de 1998, c'est Festen de Thomas Vinterberg. Personnellement, c'est un de mes films de chevet, qui suit sur 24 heures un jeune homme qui va révéler les agissements de son père lors d'une fête de famille dans un manoir cossu au Danemark. Voilà, c'est un film d'une très grande puissance, d'une très grande violence évidemment, mais aussi d'une très grande douceur que je vous conseille vraiment de revoir.
C'est vrai qu'il est extraordinaire. Ouais. Je l'ai vu qu'une fois, mais je vais la regarder. Il y a aussi Christine Angot en France. On peut penser ce qu'on veut de l'autrice. Ses romans comme L'inceste ou Un amour impossible ont été nécessaires pour parler de l'indicible et le mettre en grand dans les journaux. L'an dernier, d'ailleurs, la réalisatrice Catherine Corsini a produit sur la base de son roman Un amour impossible, un film avec Virginie Fira dans le rôle de la mère. Parce que ce film est génial, parce qu'il revient sur la relation de Christine Angot à sa mère et à la réaction de celle-ci face à l'inceste enduré par sa fille.
J'élève ma fille seule depuis qu'elle est petite. Quand elle était petite, elle connaissait quasiment pas son père. Il a repris contact avec elle.
Oui, c'est quand même intéressant de voir que Christine Angot a été un peu pionnière dans la médiatisation de l'inceste et que, même si c'était il y a quelques années, à l'époque où elle en parlait, ça a été quand même très mal reçu.
Ouais.
Et ce serait sans doute pas pareil si elle en parlait aujourd'hui. Donc on la remercie d'en avoir parlé. Dans la culture, il y a aussi le cas Eva Ionesco, donc la fille de la photographe Irina Ionesco, qui a demandé en 2012 au tribunal de grande instance de Paris d'interdire la diffusion et l'exploitation par sa mère des clichés qu'elle avait réalisés d'elle dans les années 70, qui la représentait entre les âges de 4 et 12 ans, parfois en barésie, parfois montrant son sexe. Et donc, elle a dénoncé une atteinte au droit à l'image et à sa vie privée. Elle a demandé aussi des dommages et intérêts et la restitution des photos et de leur support. Et la réponse de l'avocat à sa plainte, ça a été, comme d'habitude, c'était une autre époque. Les années 70, c'était une époque plus libérale et plus permissive. Voilà, on a l'habitude de ce genre d'argument.
L'enfer.
Ouais.
Et un dernier conseil, entre guillemets, c'est le film Happiness de Todd Solondz qui est sorti en 98, qui fait partie des films les plus gênants qui soient, à mon sens, avec Salo de Pasolini. Ce film fait le portrait d'une famille dysfonctionnelle où tout vacille. Et il y a le personnage donc d'un pédocriminel absolument terrifiant qui agresse le copain de son fils. Quand son fils l'apprend, il tombe dans des abîmes de réflexion. Pourquoi lui n'a pas été agressé? Bref, c'est horrible, mais important de voir ça au cinéma aussi.
Oui, on peut aussi voir et revoir Mysterious Skin de Greg Araki, qui parle très bien de la mémoire traumatique d'un point de vue assez pop et assez camp. Voilà. Et alors cette semaine, qu'est-ce que tu as dans ta besace à nous recommander, Anne-Laure?
Alors, un peu de douceur, hein, histoire de,
de
souffler un peu. Ouais. Alors, aujourd'hui, je vais vous conseiller Les Dessous Lesbiens de la Chanson, qui est une super étude de Léa Lugetti et Pauline Paris, qui est publiée aux éditions IX, des éditions féministes, qui pratiquent entre autres la grammaire égalitaire, l'accord de proximité. C'est super cool de parler d'elle aussi. Donc, les autrices reviennent sur les chansons qui racontent les lesbiennes, par sous-entendu ou pas, de 1919 à 2019. On revient sur l'importance de la visibilité dans un domaine aussi banal que la musique qui peut charrier tellement de choses. On peut trouver là-dedans Vanessa Paradis, Mylène Farmer, qui ont parlé des lesbiennes, Mais on insiste surtout sur les lesbiennes qui se racontent à travers la chanson, donc Aloïse Sauvage, Colette Mani, des personnes importantes dont les textes parlent à tout le monde. À travers chaque texte, on apprend des trucs sur des chansons qu'on connaît toutes, par exemple Joe le Taxi ou les tubes de Club Dorothée qui parlent de lesbiennes, et oui. Et surtout, c'est comme si on était invité à partager le quotidien des barbiturix des années 40. Donc c'est super chouette. Le livre est aussi super pour son côté pratique. Il y a un listing des lieux historiques. Il y a une postface de Hélène Azéra, qui est une militante trans absolument géniale et qui connaît tout sur la musique. Et surtout, il y a la playlist qu'on peut écouter grâce à un QR code. Et donc je vous invite vraiment à vous procurer ce livre, il est super. Et toi ?
Alors moi, je voudrais recommander une série. Vous avez peut-être entendu parler de Scam.
Faut que t'arrêtes de te prendre la tête en pensant à ces meufs, ok ? T'es beaucoup mieux sans elle.
Ça t'intéresserait de faire partie de notre crew
pour faire une fête ?
Donc la série norvégienne pour ados qui a été diffusée sur Instagram, à mon sens, c'était vraiment l'une des choses les mieux écrites et les mieux vues sur le sujet. Ça parlait de féminisme, de slut-shaming, de troubles alimentaires, de questions de race, d'orientation sexuelle, etc. avec énormément de finesse et de jeunes acteurs et actrices assez exceptionnels. Depuis son succès, la série a été déclinée un peu partout dans le monde et sa version française est aujourd'hui diffusée sur France TV slash. Mais cette année, c'est la première fois qu'une saison 5 de Scam est écrite, donc elle ne s'inspire plus de l'original cette fois-ci. Il faut savoir que chaque saison suit un personnage et donc cette fois-ci, dans la série française, c'est le personnage de Arthur qui va devenir sourd. Voilà, je vous en dis pas plus.
Ça donne envie, hein.
Ouais, mais regardez la série.
Allô, allô,
allô, allô.
Monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute.
Alors, une auditrice qui souhaite rester anonyme nous a posé une question sur les réseaux sociaux. Comment introduire le féminisme dans les premiers rencarts avec un mec ?
Ah là là, grande, c'est chaud.
Vaste question. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu un rencard avec un mec, mais quand même, je peux essayer de te répondre. C'est sûr que dernièrement, beaucoup de féministes hétéros ont témoigné sur la difficulté justement à être en couple avec un mec. Par exemple, on pense à Emma et le dessin qu'elle a fait sur la charge mentale. C'est vrai que ça peut être ardu. Ou pire, quand il se dit allié aux féministes et que finalement, quand l'enfant arrive, tout change. Donc ça, c'est vrai que c'est fou. Alors, on pourrait comprendre la question de cette auditrice comme ça. Elle craint que ses convictions ne fassent fuir ce prétendant, qu'il faille prendre des pincettes, mettre du miel dans son vinaigre, édulcorer sans doute le propos, ne pas aborder de sujets qui fâchent, comme ça, au débeauté au premier encart. Donc, en gros, faut-il parler de Netflix et pas de MeToo, sachant que c'est un peu une pente glissante parce que Netflix peut de toute façon amener à MeToo et vice-versa. Mais nous, on va lui répondre que faire le choix d'aborder le féminisme est sans doute la meilleure façon de ne pas perdre ton temps, qui est précieux, clairement, et de ne pas te coltiner un cas à éduquer ensuite.
Ça fait le tri, hein, franchement.
Clairement. Tu peux même mettre féministe dans ton profil Mythique. Je ne sais pas si Mythique, c'est toujours d'actu, mais c'est pas grave.
Ou OK Cupid.
Ou OK Cupid. Dans ces cas-là, on te conseille d'y aller franco de port. Tu peux aborder la question. Dirais-tu que tu es un homme féministe, direct, ou tu penses quoi de tel sujet d'actu ? À la limite, ça permet de trier le bon grain de livret. Mm. T'es d'accord ou pas ? Tu t'y connais mieux que moi, je crois.
Non, je suis complètement d'accord. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode, nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, mais également nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Merci. Salut Anne-Laure.
Salut Clémentine.
Quadmeuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Anne-Laure Pinault.
Monté et mixé par Laurie Galligani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son et coordination Ashley Tola.